Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour. Lors d'une première approche de l'œuvre poétique de Pier Paolo Pasolini, l'attention avait été prêtée au recueil des sonnets dédié à l'un de ses comédiens fétiches, Ninetto Davoli. Ce recueil était publié dans la collection de poche NRF Poésie Gallimard, collection dans laquelle deux autres volumes rassemblent l'un les poèmes de jeunesse dans une traduction de Nathalie Castagnier et Dominique Fernandez, l'autre les poésies échelonnées de 1953 à 1964 et traduites par José Guidi. Ces trois recueils ayant le mérite de se présenter en édition bilingue. Cinq autres volumes permettent d'approfondir la connaissance de l'œuvre poétique de Pasolini. Toujours en édition bilingue, une anthologie intitulée « Adulte, jamais » rassemble des poèmes écrits entre 1941 et 1953, et une seconde anthologie intitulée « La persécution » couvre la période 1954-1970 dans la collection « Point poésie » et dans la traduction de René de Cecatti. Enfin, Rivage Poche publie trois recueils qui portent les titres « La religion de mon temps »,« Description de description » et « Poésie en forme de rose » sous la direction du dernier traducteur précité. Et c'est justement René de Cecatti qui, dans la présentation qu'il rédige pour la collection « Point », précisera, je le cite, « L'éventail que j'ouvre ici comporte la multitude des facettes du poète. Cela va du tableau sociopolitique, comme l'humble Italie ou Monologue sur les Juifs, ou Patmos, référentiel à des faits précis de l'histoire italienne ou européenne, à des confidences plus personnelles, comme les fragments de son journal de 1961, où l'on retrouve des accents de poèmes plus anciens, en passant par des polémiques spécifiques, des rencontres intellectuelles, Sartre, Lukács, des règlements de compte, voilà, j'ai été condamné, ou poésie en forme de polémique, des descriptions de voyages, au Brésil ou à travers l'Italie, des portraits intimes, Callas, ou allégoriques, Marilyn. On le voit, la richesse de cette palette ne permet pas de tout évoquer dans cette émission, le but étant surtout de susciter la curiosité des futurs lecteurs ou de ceux qui veulent approfondir leur approche de Pasolini. Pour ce qui est par exemple de Maria Callas, Pasolini lui dédie plusieurs poèmes qu'il a composés pendant le tournage de son film « Médée », film sorti en 1969 et où elle incarne le rôle principal. Maria Callas, avec qui Pasolini, je cite encore Cecatti, avec qui Pasolini voyagera en Afrique, puis en Amérique du Sud, et séjournera sur l'île grecque de Tragonisi en août 70, qui fut plus qu'une simple interprète. Cette rencontre avec une icône du monde lyrique et une habituée de la presse à scandale revêtit une importance particulière pour Pasolini. La chanteuse gréco-américaine, qui appartenait pourtant à un tout autre monde que le sien, celui de l'opéra, plus familier à Visconti qu'il avait dirigé à La Scala, et celui d'une jet-set assez vulgaire et qui menait une vie luxueuse aux habitudes bourgeoises, était une artiste exceptionnelle et avait, avec la mythologie, un rapport fascinant aux yeux de Pasolini. Elle était certes grecque, ce qui n'était pas sans importance pour incarner Médée, qui avait été un de ses rôles fétiches à l'opéra dans la version de Cherubini. Mais surtout, elle avait de son métier de chanteuse une conception quasiment sacrée d'incarnation de la musique. Avant de lire le poème intitulé précisément « Callas », précisons que dans le texte, dans le poème que je vais lire, les travaux de menuiserie désignent ceux qui ont été effectués sur le set du tournage de Médée en Turquie. Quant à la figure de Lévi Brühl, c'est un anthropologue du XIXe siècle, spécialiste de l'âme primitive. Pasolini lisait en effet des essais d'anthropologie pour comprendre et pour représenter les sociétés antiques où se déroulait le mythe de Médée. Je lis donc le poème intitulé « Callas ». Tout s'arrête de soi-même. Quand la cliente, le client, n'a plus de sous, dit le collègue cynique à Jung. Mais rien n'a jamais commencé. Y aurait-il eu le moment inaugural où la victime a jeté dans le feu a été remplacé chez les Écossais par un pantin? Les deux choses ont été et sont toujours contemporaines. Les dépassements, les synthèses sont illusions, dis-je, d'Européens vulgaires, mais pas par cynisme. Et Lévi Brühl fondait le rationalisme des sociétés supérieures, et il le faisait avec raison, sur le temps, l'espace et la substance, triade à laquelle manquent, et avaient donc raison, les sociétés inférieures, les deux premiers éléments. La thèse et l'antithèse coexistent avec la synthèse. Voici la vraie trinité de l'homme, ni prélogique ni logique, mais réelle. Sois savant avec tes synthèses, qui te font procéder et progresser dans le temps, qui n'est pas, mais sois aussi mystique, en soignant démocratiquement dans le même tabernacle, avec synthèse, thèse et antithèse. Il n'y a pas d'histoire, disons, il y a la substance qui est apparition. Ainsi, tu pourras vivre en brave citoyen révolutionnaire, dans l'histoire qui n'est qu'illusion possible pour toi. En effet, le soleil dominical brille et les travaux de menuiserie sont en pleine ferveur, évidemment supplémentaires ou extraordinaires, dans la paix du soleil de Cappadoce, dont la réalité, après une longue interruption, reprend son cours, en attendant aujourd'hui, par exemple, l'arrivée de la Callas. Sous ce soleil, soit dit en passant, Saint Paul est passé par accident en vain. Des milliers de créatures ont continué, sans interruption ni paix, à faire paître des troupeaux pour les garçons, à piocher et filer pour les filles, tous pareillement, étouffant, sous la poussière ou la boue sèche, pendant que, souverainement indifférents, les amandiers et les pistachiers coexistent, étincelant, avec qui a encore un peu de sous à dépenser.
Oh,
Comme Maria Callas, Pasolini a un sentiment aigu de la nécessité du sacré dans l'œuvre d'art. Or, ce sacré, désormais, Pasolini y a un accès plus direct par le cinéma. Il l'a montré assez clairement dans ses films « L'Évangile selon saint Matthieu », « Œdipe roi », « Médée », « La ricotta », « La terre vue de la lune », « Que sont les nuages », « Théorème ». Certes, tous ces films ont un langage poétique et insèrent du reste des poèmes que Pasolini republie parfois indépendamment. Même dans ses courts-métrages politiques, il n'hésite pas à citer des poèmes entiers, comme son fameux poème sur Marilyn Monroe, qui figure dans la bande-son de La Rage, La Rabbia en italien. Avant de lire ce poème, je voudrais préciser que ce texte, La Rabbia, il ne s'agit pas d'un recueil, mais d'un moyen-métrage distribué en 1963. Pasolini a tourné la première partie qui dure 50 minutes et Giovanni Guareschi la seconde. On entend la voix off du romancier Giorgio Bassani lire le poème Marilyn. Le texte, date de 1962. Il fut d'abord chanté par Laura Betti dans son récital Giro a Vuoto au Teatro Gerolamo de Milan le 12 novembre 1962. Marilyn était morte le 4 août de cette même année. Je vais donc lire ce texte intitulé « Marilyn ». Du monde antique et du monde futur, n'était restée que la beauté. Et toi, pauvre petite sœur cadette, celle qui court derrière ses frères aînés et rit et pleure avec eux pour les imiter et se met leurs écharpes, touche en cachette leurs livres, leurs canifs, toi, petite sœur, la plus jeune de toutes, cette beauté, tu la portais humblement avec ton âme de fille du petit peuple. Tu n'as jamais su que tu l'avais, parce que, autrement, ça n'aurait pas été de la beauté. Elle a disparu, comme une poussière d'or. Le monde t'en a donné conscience. Ainsi, ta beauté est devenue sienne. Du stupide monde antique et du féroce monde futur était restée une beauté qui n'avait pas honte de faire allusion au petit sein de la petite sœur, au petit ventre si aisément dénudé. Et c'est pourquoi c'était de la beauté, celle-là même qu'ont les douces mendiantes noires, les gitanes, les filles de commerçants qui gagnent les concours de beauté à Miami ou à Rome. Elle a disparu comme une colombe d'or. C'est le monde qui t'en a donné conscience, et ainsi ta beauté a cessé d'être beauté. Mais tu continuais à être enfant, idiote comme l'Antiquité, cruelle comme l'avenir, et entre toi et ta beauté, accaparée par le pouvoir, se sont mises toute la stupidité et la cruauté du présent. Tu l'emportais comme un sourire entre les larmes, impudique par passivité, indécente par obéissance. L'obéissance exige bien des larmes qu'on ravale, et de se donner aux autres regards trop gais qui demandent leur pitié. Elle a disparu, comme une blanche ombre d'or. Ta beauté, survivante du monde antique, exigée par le monde futur, accaparée par le monde présent, devint ainsi un mal. Maintenant, les grands frères se tournent enfin, arrêtent un instant leur maudit jeu, sortent de leur inexorable distraction et se demandent « Se peut-il que Marilyn, la petite Marilyn, nous ait indiqué la voie ? Maintenant c'est toi la première, toi la plus petite des sœurs, celle qui ne compte pour rien, pauvre petite avec son sourire. C'est toi la première, au-delà des portes du monde, abandonné à son destin de mort. Je donne maintenant quelques extraits du même poème, lu en italien, comme je l'avais précisé, par le romancier Giorgio Bassani.
Del mondo antico e del mondo futuro era rimasta solo la bellezza e tu, povera sorellina minore, quella che corre dietro i fratelli più grandi e ride e piange con loro per imitarli, tu, sorellina più piccola, quella bellezza l'avevi addosso umilmente e la tua anima di figlia di piccola gente non ha mai saputo di averla, perché altrimenti non sarebbe stata bellezza. Il mondo te l'ha insegnata, così la tua bellezza divenne sua. Del pauroso mondo antico e del pauroso mondo futuro era rimasta solo la bellezza e tu te la sei portata dietro come un sorriso obbediente. L'obbedienza richiede troppe lacrime inghiottite, il darsi agli altri troppi allegri sguardi che chiedono la loro pietà. Così ti sei portata via la tua bellezza. Sparì.
De ces hommages rendus à deux femmes d'exception, Maria Callas et Marilyn Monroe, force est de constater que Pasolini a dû âprement lutter toute sa vie pour imposer ses créations comme ses choix de vie. Et les meutes d'imbéciles et de hyènes sont toujours si nombreuses qu'il lui faut employer, je le cite, un écran ironique et amer. Écran du cinéma, bien sûr, lorsque, par exemple, sortira en 1964 le film « L'Évangile selon saint Matthieu » qui suscita un vent de révolte chez des critiques qui passaient pour ouverts ou progressistes. Par exemple, le critique Michel Cournot. Michel Cournot, en effet, dans Le Nouvel Observateur, écrira le 4 mars 1965, à la stupeur de la plupart des lecteurs de cet hebdomadaire qu'on avait connu moins vulgaire, citation donc de Cournot, « Mais j'appelle art PD, par facilité, je l'avoue, certaines œuvres gênantes de singerie, de maniérisme, d'allure dansante et chantonnante, de coquetterie injustifiée, de minauderie superflue, autant d'attributs manifestes, quoique exprimés au ralenti et à travers une gravité feutrée du film « L'Évangile selon saint Matthieu ». Je ne sais d'ailleurs pas du tout si M. Pasolini est de la jaquette ou pas, mais je vois que son film en est et que ça me gêne beaucoup. Ce critique ne mérite pas d'être cité plus avant. Une journaliste italienne, heureusement plus inspirée, Maria Antonietta Mazzocchi, conseillera à Pasolini de prendre conseil auprès de Sartre, qui leur donna aussitôt rendez-vous au Pont Royal. Le philosophe expliqua au cinéaste que la gauche française craignait que les thèmes religieux ne favorisent le retour de la pensée conservatrice et que la réflexion critique française sur le marxisme refusait de considérer en elle ces éléments chrétiens. Pasolini dit que, s'il avait été français, il aurait situé son film en Algérie, parmi le sous-prolétariat, pour traumatiser encore plus les Français. La Lucanie, où a été tourné le film, étant pour les Italiens un équivalent de l'Algérie pour les Français. Mais on peut ajouter qu'il y avait écran du cinéma, mais écran de la poésie aussi, à travers le poème « Ecco sono stato condannato », ce qui signifie « mais j'ai été condamné », que je vais lire à présent. Voilà, j'ai été condamné. Fait personnel, si gu que je devrais boire seul, comme le héros d'une petite œuvre de douleur, en cothurne, parmi le cœur bas, je descends dans la nuit, tiède, l'horrible escalier du parvis. les amis s'en vont dîner, seul, avec trois photographes paumés et la petite foule que je ne regarde pas, héros compris dans sa douleur. Ce sont les rues que j'emprunte tous les soirs, mais maintenant révélées dans leur vraie réalité. Elles ne sont pas mon bien, mon paysage, mon intimité, mais elles appartiennent à d'autres et leur valeur me semble maintenant suprêmement étrangère. La tiédeur monstrueuse d'un printemps qui n'est pas là, l'infinie confiance des choses connues et retrouvées, les solitudes urbaines dans l'air tendre de l'après-dîner immédiat, encore hivernal. Espoir naïf, mythe poétique d'une âme qui, en réalité, est, elle, l'invitée, elle, la pauvre visiteuse que personne ne connaît. Et pour personne, elle n'a le droit d'être ici. Avec une certitude arrogante, maintenant ils se disent maîtres de cette ville dépourvue de poésie. Eux, champions non d'une idée politique, mais d'une classe avec leur maison, leur famille, leurs amitiés, qui ont ici des racines profondes, avec un goût inique et une conscience inique, mais avec plein droit. J'ai vu en face cette classe, toute une journée, et j'en ai éprouvé la terreur de nos pères pour des monstres. Le pâlissement hystérique de la peau, je passe, les petits yeux enfoncés entre deux petites paupières utérines, la bouche tombante du napolitain bouffeur de plats puants, je passe, chez qui, dans son sang espagnolesque, affleure le sang des marchands ambulants. Et cette effigie qui fut noble, maintenant dans la disproportion des valeurs changées de l'histoire, est celle d'un, je passe, homme de l'État petit bourgeois et paternel. Lui, il est possesseur de cette réalité qui est la mienne, et dans cette conscience, la réalité se dépouille, se fait chose répugnante, nue comme dans les rêves. Seul, moi, et la bave que le monstre laisse sur le monde. Reste à évoquer quelques passages disposés en tercet du long poème qui donne son titre à l'anthologie établie par Cecatti sous le titre que j'ai déjà cité, La Persecuzione, la persécution. Je ne peux en citer que des fragments. Voici donc certains de ces fragments. Je revenais par la Via Portuense. J'ai quitté, lucide dans l'étourdissement de la fête des autres, ennemi sans lumière, jamais pour moi, je refuse ce qui me reste. La voiture, dans le soleil dominé par le soir, sur un trottoir émietté, dans la triste confusion d'un terminus de banlieue. L'air était très tendre, et du monde flémardait dans une trouble misère de clôture en jonc sec autour d'un bar. C'était un mur terne, perdu sur l'arrière-plan d'une vision indicible de soleil, taudis, fondation. Autour de ces tables, il y avait des personnes que le soir encore torride rendait comme des esprits. Mères, avec leur passion avilie, filles, dans des robes où la pauvreté joyeuse, bourgeoise, leur serrait le cœur, voisins d'immeubles, bref, quiconque pouvait se concéder la joie d'une dépense là où leur lointain quartier reproduisait les grands centres de la ville. Moi, j'entrais dans ce bar par hasard pour boire un verre de quelque chose, brûlé par le soleil, sans force, défait par la douleur et le savoir. discussion n'aura pas de fin parce que Pasolini ne cédera jamais, ne renoncera jamais, n'abdiquera jamais. Sa révolte aux côtés des humiliés et des offensés le conduira à la rédaction d'un ultime texte romanesque, Petrolio, pétrole, qui à sa mort restera inachevé. Ce roman est construit autour des liens entre les services secrets, le pouvoir politique de la démocratie chrétienne et l'ENI, l'Ente Nazionale Idrocarburi, la compagnie nationale des hidrocarbures, dont le président Eugenio Cefis aurait commandité le meurtre de son prédécesseur Enrico Mattei. Dans une tribune du journal Le Corriere della Sera de novembre 1974, Pasolini affirmait connaître les noms des personnes importantes qui, avec l'aide de la CIA, des colonnes grecques et de la mafia, auraient planifié et mis en œuvre la stratégie de la tension qui provoqua les vagues de terrorisme qui secouèrent l'Italie de ce temps-là. Le roman paraîtra à titre posthume, un chapitre manquant, mystérieusement disparu après la mort de son auteur. Pasolini est tué dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975 sur la plage d'Ostie près de Rome, tué à coups de bâton, puis écrasé par sa propre voiture, une Alfa Romeo Giulia. Un jeune prostitué de 17 ans, Giuseppe Pelosi, dit Pino la Grenouille, après s'être déclaré seul responsable de la mort du poète, se rétractera bien plus tard, en 2005, et mentionnera la présence de trois hommes à l'accent sicilien. Il n'en dira pas plus, arguant des représailles dont lui et sa famille auraient fait l'objet en cas de révélation plus précise. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre successivement Maria Callas chanter « Dei tuoi figli la madre », un extrait de l'opéra « Medea » de Cherubini, puis le romancier Bassani qui a lu le poème, un extrait du poème « Marilyn », et enfin, vous avez pu entendre un extrait d'une cantate de Bach, BWV 82, chantée par le baryton basse Edwin Crossley Mercer. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.